Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? C'était chouette, hein? Le lieu est super. Et elle n'est pas finie. Merci. Meilleur pour la fin? Non. Donc, rendez l'agilité aux développeurs et développeuses. Avant de commencer, on fait juste un rapide. On n'a jamais le temps à la fin des discussions. Donc, un grand, grand, grand merci à tous ceux qui ont rendu ce printemps agile possible. Donc là, on a une première partie des partenaires et puis on en a une deuxième ici. Donc merci à tous ceux-là. Merci aussi aux orgas. C'est juste top le boulot qu'ils font. Et aux bénévoles aussi. Donc merci à eux. Rendez l'agilité aux développeurs et développeuses. 2. Le livre dont vous êtes le héros. Ça vous parle? Les livres dont vous êtes le héros? Ouais. Oh, merci. Je me sens moins seule. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le principe, c'est d'être acteur de l'histoire. On va avoir un héros ou une héroïne et on va lui faire vivre des aventures en fonction de nos choix à nous. Et des fois, on développe un petit côté sadique. Bon, là, on l'a pas parce qu'on est tous des agilistes, on est bienveillants, tout ça, tout ça. Mais, n'empêche que des fois, on choisissait des galères pas possibles à faire vivre à notre héros et au final, il s'en sortait bien. Donc, bon. C'est ce que je vous propose comme format aujourd'hui. Au final, c'est moi qui les appelle, donc c'est quand même moi qui choisirai. Mais on verra qu'il y a toujours, pour plusieurs CNET, il y a toujours plusieurs choix possibles. D'abord, une petite préface pour mettre les règles du jeu au clair. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, ça fait très longtemps que j'y pense. Les premières CNET ont été écrites en 2019, donc ça remonte un petit peu. C'était le monde d'avant, vous vous rappelez. Et c'est toujours valable en 2023. En tout cas, quand je parle avec mes collègues agilistes, en fait, on est toujours en train de revivre les mêmes scènes, en train de reproduire les mêmes erreurs, qui n'en sont pas toujours, hein. Des fois, ce sont des choix stratégiques. Mais voilà, ce que je vais vous montrer là, c'est un petit peu une évolution de ce que je pouvais déjà voir en 2019. En fait, ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, c'est que sous prétexte d'autonomie et d'auto-organisation des équipes dites agiles, on en demande toujours plus, toujours plus vite. Et en fin de compte, on se rend compte, qu'on fait vivre des fois un calvaire à nos équipes de dev. Et c'est pour ça que ce qui va suivre est un cri d'alarme et une revendication. Ce que je vous présente là, c'est 6 CNET particulières. Il peut y en avoir plein d'autres. Et d'ailleurs, je suis friande de vos retours d'expérience à la fin de la présentation pour venir alimenter nos discussions. Donc c'est parti. On va présenter les personnages de notre histoire. Je vous présente Lily. Lily, c'est une développeuse React qui a 2 ans d'expérience, qui est considérée comme une jeune développeuse, bien que elle a une certaine expertise en développement maintenant. Et je vous présente vous, les lecteurs, qui tour à tour, on va prendre différentes casquettes. Je vais demander à votre imagination de déclencher ce pouvoir, de mettre différents chapeaux pour faire des choix sur la vie de Lily. La petite histoire. On pose un petit peu le périmètre. Lily démarre un nouveau poste dans une nouvelle ESN, si cool, qui est vraiment cool, un petit peu moins que Apsi quand même. Et son objectif, c'est d'intégrer une nouvelle équipe qui va produire un site internet pour un client qui s'appelle Todo et qui est spécialisé dans la vente de masques. Il faut vraiment que je pense à mettre à jour cet exemple quand même à un moment donné. Ils vont faire faillite. Lily, elle est super motivée. Elle a passé 3, 4, 5 entretiens avant de rentrer à Sicool. Elle a hâte de montrer ce qu'elle vaut. Et donc aujourd'hui, c'est son premier jour. Et à son premier jour, elle va vous demander à vous, manager, par quoi elle peut commencer. Là déjà, 2 choix s'offrent à vous. D'abord, on va la faire commencer immédiatement. Après tout, le temps c'est de l'argent. Allons-y. Ou on va prendre le temps de faire les présentations à son équipe, aux équipes d'à côté, bref, à son environnement. Qui est pour la première solution? Il n'y a pas de sadique dans la salle? Qui est pour la deuxième solution? Oh, c'est bien. Le monde est peuplé de personnes bienveillantes. Alors, j'ai posé la question autrement. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous souvenir les 3, 4, 5 dernières années. les missions que vous avez commencées, les nouveaux clients chez qui vous avez commencé, ou même les nouveaux postes que vous avez faits, est-ce qu'on a pris le temps de vraiment bien vous accueillir, de faire un onboarding du tonnerre pour que vous vous sentiez attendu et bienvenu? Oh, il y a des chanceux, je veux le nom de votre boîte. De toute façon, je vous ai dit, c'est moi qui les appelle, c'est moi qui choisis. On va faire vivre à Lily le fait de commencer immédiatement à produire, parce que le temps, c'est de l'argent. Lily se met donc au travail. Quand je vous ai dit que les choix sadiques, ce n'était pas forcément les pires, Lily, à son premier jour, elle a déjà son PC. Il est déjà prêt, configuré. Elle a déjà son utilisateur et son mot de passe qui fonctionne. On n'est pas si mal. Je donnerai des noms aussi après. Et elle a accès à la documentation qui existe. Donc, oui, on imagine, ça appelle beaucoup de l'imaginaire. Et donc, Lily, elle commence à regarder la documentation. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde la documentation? Comme n'importe quel écrit, il peut y avoir de l'interprétation ou de la mauvaise interprétation. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des questions. Et dans ces cas-là, bah, on aime bien se retourner vers... on a oublié de faire les présentations. C'est pas grave, Lily, elle est super motivée. Elle passe la tête dans le bureau d'à côté. Ah oui, parce que je ne vous ai pas précisé, mais son équipe, en plus, il y a la moitié qui est en télétravail et puis l'autre qui est en RTT. Bon, bah, en fait, il n'y a plus personne pour l'aider. Donc, elle passe la tête dans le bureau d'à côté. Elle pose sa petite question. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce point-là? Je n'arrive pas à comprendre. Ah, bah non, désolé. Bah, si tu veux trouver la réponse, va voir la documentation. Allez, on lâche rien, c'est notre premier jour, il faut qu'on prouve qu'on est la bonne personne. On retourne dans un autre bureau, on refait les présentations. Bonjour, je suis un tel, je me pose la question là-dessus. Ah ben, tu connais pas les process? Bah non, en fait, on m'a juste donné la doc. Et... Alors c'est très facile. Pour les process, si tu te poses des questions dessus, bah c'est très simple, tu vas voir la doc. Comment on se sent là? Ouais. On se sent frustré, on se sent seul. Et au bout du premier jour, de la première semaine, du premier mois, moi, j'ai déjà ramassé des gens à la petite cuillère. Et pas des débutants pour lesquels c'était la première expérience. Hein. Des fois, des grands gaillards qui ont tant d'expérience qui arrivaient et où ils se sentaient pas du tout attendus. Ce que je vous mets en encart bleu, c'est des phrases que j'ai vraiment entendues très tôt dans la période d'essai, dans les premiers mois, les premiers temps. Je suis nul, j'arriverai pas au secours. En termes de motivation, on n'est pas là. Hein. Mais heureusement, le livre dont vous êtes héros nous permet quelque chose. C'est de revenir en arrière, de refaire le bon choix. Et vous avez tous bien choisi dès le départ. Bravo, c'était pas facile. Et en tant que manager, vous allez prendre le temps et vous allez permettre à Lily d'intégrer son équipe correctement. Ça passe par quoi? Ben, c'est tout bête. Alors, c'est pas une liste exhaustive de tout ce qu'il faut faire, hein, mais c'est déjà des premiers pas positifs. Ça passe par des présentations à son équipe. Lily, tu vas travailler avec Jack, testeur intégrateur, Dave, product owner, et Chris, technical backend. Et on s'arrête pas là. L'équipe aussi, ça va la bouleverser. Ça va lui changer son périmètre. Ça va lui changer sa façon de faire. Donc, il faut aussi qu'on la rassure, qu'on lui présente Lily, qu'on mette un peu les choses à plat. On peut parler perso, mais c'est pas le but, hein. C'est d'abord pro. En tout cas, c'est pas obligatoire. Et puis, on va délimiter le périmètre. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le projet? Quel est l'objectif? Comment on va s'organiser pour y arriver? Quel est notre stack préféré, notre IDE préféré? Et puis, on peut déjà avoir des débats constructifs dès ce premier jour-là. En faisant ça le premier jour correctement, vous avez mis un premier pied dans l'identité, la construction de l'identité de l'équipe. Ça ne se fait pas en une seule journée. Mais encore une fois, si vous loupez la première journée, la première semaine, c'est très compliqué de récupérer des choses. En termes de confiance en soi, non seulement Lily se sent attendue, elle entrevoit déjà comment elle va pouvoir aider l'équipe et comment elle va pouvoir trouver sa place. Et à l'inverse aussi, l'équipe est rassurée. Lily ne va pas leur piquer un bout de périmètre sur le projet. Ça paraît tout bête, mais quand on le vit, bah ça peut être mal vécu. Et enfin, on développe un premier sentiment d'appartenance. Et normalement, si tout se passe bien, ça va aller en s'améliorant. Donc bravo manager, vous avez rendu une première clé à vos équipes agiles. Et pas que agiles d'ailleurs. Dès que vous avez à travailler en équipe, je vous conseille de bien accueillir les personnes. Est-ce qu'il y avait des managers dans la salle? C'était facile, en fait, comme question. Je pose des questions bêtes, je suis désolée. Deuxième scénette. Maintenant qu'on a présenté la documentation, les outils, les rôles, les objectifs, on sait à peu près comment on va s'organiser pour les premières itérations. Donc, on en lance une première. Et là, déjà, il y a un petit problème sur un outil. Ce n'est pas un outil de versionning. Ce n'est pas un outil qui concerne l'intégration continue. Rien de tout ça, ce n'est pas la stack. C'est un outil, je ne sais pas si vous savez, qui suit un petit peu l'évolution des fonctionnalités. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les sous-tâches? Tout ça. J'ai le droit de faire de la pub, alors je vais l'appeler Giraffe. Il y en a qui l'utilisent. Et du coup, l'équipe est en souffrance. Pourquoi? Parce que l'outil, ils n'en sont pas administrateurs. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme ils veulent. Un outil est utile quand on peut l'utiliser à nos fins. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ils ont l'impression de perdre du temps. Ils ne savent pas comment efficacement gérer cette étape. Et donc, ils se retournent vers vous. Pilote transverse, PMO, ça dépend un peu des boîtes. Et ils vous demandent, ils vous implorent de changer d'outil ou en tout cas de les laisser libres de tester autre chose pour toujours continuer à fournir les indicateurs dont le pilote transverse a besoin. On est d'accord, hein. Mais pour gagner du temps et de l'efficacité sur ce pourquoi ils sont payés, leur expertise développée. Et en l'occurrence, on nous propose d'utiliser Grimo. Je ne sais pas si ça vous parle non plus. Et nous, pilotes transverses, qu'est-ce qu'on répond? Premier choix. Non, on va continuer comme on a toujours fait. Les licences girafes, ça coûte super cher, faut les amortir. Ou bien, ok, sous condition, choisissez votre outil, on teste, et on approuve ou désapprouve, mais on verra. Qui choisit le premier choix? C'est bien, on n'a qu'on se perd. Merci. Et le deuxième? Ouais. Alors, dans la vraie vie, je vais quand même mettre un petit, c'est un peu biaisé comme question, ce qui nous est vraiment arrivé, parce que oui, c'est du vécu. On est quand même allé voir le pilote transverse pour demander les droits d'administration d'abord sous l'outil Giraffe, qui nous a été refusé pour des raisons de sécurité, parce qu'on pouvait du coup modifier les sous-tâches des équipes voisines. C'est très dangereux. Donc, c'est pas possible partout. Ce que je vais vous dire, c'est l'idéal, on a le droit de l'idée. Donc, voilà. Mais d'abord, on va cauchemarder. On va continuer comme on a toujours fait et on va amortir les licences girafes. Alors nous voilà, avec notre beau workflow imposé, qui est le même pour toutes les équipes de toute la boîte, et d'ailleurs qui ne sert pas juste pour les équipes de dev, mais aussi pour les équipes marketing, donc il y a un petit peu tout qui est utilisé là-dedans. Et on se pose des questions, comme, ok, dans quel cas, moi, je vais pouvoir mettre cet indicateur qui, moi, en tant qu'équipier, me sert. Si je réutilise une autre case, parce que je ne peux pas en créer, je ne suis pas administrateur. Si je réutilise une autre case, j'ai peut-être pété les indicateurs automatiques du pilote transverse qui, justement, se basent sur la case en question. Donc, non, tant pis, on va se le noter sur un post-it à côté. Hein. Pourquoi on ne peut pas ajouter de champ? Je suis désolée, mais c'est parce que, Chris, tu n'as pas les droits admin. Et notre petite Lily qui vient d'arriver, je comprends pas en fait, on nous demande de faire des sous-tâches. En fait, il nous faudrait un niveau de sous-tâche supplémentaire pour que nous, ça nous paraisse utile. Et non, on peut pas. Et mettez-vous à la place de votre product owner qui en plus, lui, a le cul entre deux chaises. Il faut à la fois qu'il réponde aux besoins des indicateurs transverses du pilote et en même temps, il voit son équipe un peu désemparée et passer un temps fou sur cet outil un peu administratif, comme il le disait. Et comme on sent dans ces cas-là, on a l'impression de perdre du temps, on a l'impression de ne pas y arriver, et pire que tout, et je vous le souhaite pas, un jour, on se retourne vers vous, quand vous êtes Scrum Master, et on dit, Fanny, quand est-ce qu'on commence à développer? C'est pas bon signe. Donc non, heureusement, la plupart d'entre vous avaient fait le bon choix. On va permettre à l'équipe de Lily de réaliser ses actions dans un meilleur contexte, être efficace, et l'efficacité, c'est dans leur expertise, ils vont vraiment développer et pas passer du temps à faire de l'administratif. Donc, l'équipe s'est choisie Grelo, qui est un outil intuitif, plutôt joli, il fait pas tout, en tout cas pas en mode graphique, mais ils se positionnent sur leur sous-tâche Ils choisissent eux-mêmes leur workflow. Ils se permettent un petit brin d'humour. Tout ce qui n'est pas prêt, c'est dans le congélo. Et puis, ils testent. Une première itération, une deuxième. Dès la deuxième itération, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte qu'il y a un manque. On ne teste pas l'accessibilité du site. Ben, c'est pas grave. On est admin de notre workflow. On peut s'auto-améliorer comme on veut. Et ben, on va rajouter une étape de test d'accessibilité. Et ça tombe bien, parce qu'à l'époque, notre Lily, elle s'y connaissait un peu en accessibilité. Et donc, du coup, elle pouvait en plus prêter main forte à notre testeur. Au niveau entraide, au niveau amélioration continue, on est bien. Donc, en faisant ça, vous avez permis de garder la motivation de l'équipe. C'est tout bête. Mais en ayant le droit de tester des choses, ça aurait pu ne pas fonctionner. Hein. Ça aurait pu ne pas être la solution à ce moment-là. Mais au moins, ils ont eu la légitimité de tester, d'approuver, de désapprouver. Et qui vous dit que s'ils ne le font pas, du coup, pour un outil de suivi, ils ne le feront pas pour innover à un moment donné sur la stack, sur la façon de faire, sur des réponses techniques plus tard. Donc, il y a vraiment un sentiment de légitimité par rapport à ça et de confiance pour innover et tester. Donc, bravo, pilote transverse. Vous avez remis une seconde clé à votre équipe agile. Troisième scénette. Maintenant qu'on est à l'aise, qu'on a choisi notre outil de suivi, que le pilote transverse, finalement, est plutôt content parce qu'il continue à avoir ses indicateurs, au final, on se met à douter d'un truc. On se rend compte qu'il y a des bouchons. Où ça? Au niveau de la colonne à tester. Ah oui, le testeur, il est tout seul. Il y a deux développeuses. Et puis, en plus, on lui rajoute des tests qui ne maîtrisent pas énorme les tests d'accessibilité. Mais on est une équipe jeune dans l'agilité. On n'est pas encore ultra autonome. Rappelez-vous, l'auto-organisation, l'autonomie, ça ne se gagne pas dès lors qu'on met un pied dans un projet agile. Ça se construit petit à petit. Elle ne se connaît pas non plus, franchement. Donc, au niveau des leviers pour améliorer ce truc-là et pour débouchonner les tests, on est un peu en manque d'idées. Mais heureusement, on a un coach agile pour toute entreprise, un seul pour toute entreprise. Et du coup, il se retourne vers vous, coach agile. Il y en a? Non? Pas d'habitude. Merci, c'est vrai. D'habitude, dans les Agile Tours, il y en a beaucoup plus que ça. Deux choix s'offrent à nous. Je vous rappelle qu'on est tout seul dans l'entreprise. On se positionne en tant que référent agile. On sait qu'il y a des choses qui marchent à côté. On va leur proposer de positionner un maximum de tâches en parallèle pour fluidifier un peu les choses. Pour ceux qui ont fait un peu de Kanban, qui ont vu le principe de work in progress, ça peut marcher. Ou on va faire s'inspecter l'équipe pour l'aider, l'accompagner à trouver ses propres solutions. Qui choisit le premier? Ils ont compris. Je ne peux plus vous avoir. Et le deuxième? Ouais, ça a l'air pas mal. On va quand même voir ce qui peut se passer dans ces cas-là. Alors, c'est un vie ma vie, donc c'est ce que je vais vous dire est vrai. Il ne faut pas nous juger, on était fatigués. Okay, on a mal compris ce que nous a dit le coach agile. En même temps, on l'avait pris au détour d'un café, donc entre le couloir et puis son bureau à lui. Et quand on nous a parlé de maximum de tâches en parallèle, on l'a compris par personne. Ce qui n'est pas franchement méchant au départ. Donc ok, un VIP a un maximum de tâches en parallèle de 2 par personne. Alors on regarde, qu'est-ce qu'on avait? On avait le testeur qui était déjà sur 2, on le laisse. Lily et Chris sont sur 3 fonctionnalités, on va peut-être réfléchir à baisser le nombre de fonctionnalités qu'elles ont en cours. Qu'est-ce qui se passe humainement? Logiquement, quand vous devez vous concentrer sur moins de tâches que vous aviez en parallèle. Je donne la réponse. Vous vous recentrez sur votre expertise, le truc qui est mis dans votre fiche de poste. Donc vous oubliez toute entraide. Lily, elle va plus aider son petit testeur sur l'accessibilité. Elle va se recentrer sur ce pourquoi elle a signé. Et elle remet sa casquette full développeuse. Et on teste. Après tout, c'est le coach agile qui nous l'a dit. On teste. On fait passer les fonctionnalités, le temps passe, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a toujours un bouchon. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe aussi humainement et logiquement? On regarde plus l'étape qui pose problème, on regarde la personne responsable de ce problème. Car oui, le problème dans l'équipe, c'est devenu Jack. c'est plus les tests. Et ça, c'est terrible. Quand ça arrive, en tout cas, je ne le souhaite pas, c'est presque déjà trop tard. À rattraper, c'est compliqué. Et les choses qu'on peut entendre, encore un bouchon, on n'a rien compris, car oui, c'est le coach agile qui nous l'a dit. Donc si ça marche pas, c'est vraiment que c'est de notre faute en plus. Allez, on se flagelle un petit peu. On est nul ou quoi? Voilà. Mais heureusement, on n'est pas ce genre de coach agile. Déjà, on n'est pas tout seul à accompagner toute une entreprise. Je suis désolée, mais c'est pas humain non plus. Et on va permettre à l'équipe de s'améliorer en prenant le temps de se poser. Comment ça peut se passer? Déjà, on va venir comme un socle. Oui, on a vécu plein de trucs. On a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient. On a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Mais on a vu surtout que ça dépendait énormément du contexte, du périmètre, de qui faisait quoi, du nombre de personnes dans l'équipe aussi, du type de management, de la culture d'entreprise. Je ne vous fais pas la liste exhaustive, mais en tout cas, tout ça est à prendre en compte. Donc, on va venir quand même présenter des outils, des façons de faire, des bonnes pratiques. On va rappeler que le work in progress, ce n'est pas un tâche maximum par personne, mais par état du produit. Donc, l'entraide est toujours possible. On va parler de definition of ready. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais est-ce que, au final, ce qu'on prenait en charge en développement, c'était suffisamment prêt pour qu'ensuite ce soit fluide jusqu'au bout? Et puis, on va parler qualité, thèse, documentation, validation. Bref, encore une fois, c'est pas exhaustif, mais on va venir présenter tout ce qui est possible d'améliorer. Et on va faire se questionner l'équipe. Et c'est elle qui va décider quoi tester, quoi améliorer. En l'occurrence, nous, à l'époque, on s'était rendu compte que s'il y avait des bouchons sur la colonne à tester, c'est parce qu'effectivement, on prenait les développements trop tôt, sans avoir même écrit une seule condition de test, test d'acceptance, critère d'acceptance, tout ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est super important. La définition du prêt, pareil. Quand est-ce qu'on considère que quelque chose est prêt à être développé? Et enfin, le pauvre testeur, une petite montée en compétences, une petite formation sur l'accessibilité. Voilà, ça n'a pas fait de mal. Mais c'est nous qui avons choisi. Et surtout, on s'est questionné sur le pourquoi. Et ça, c'est super important. Donc, en prenant ce temps-là, le coach agile, il a mis une petite pièce dans l'amélioration continue de l'équipe. C'est très important. Une fois qu'on est convaincu que ça apporte des choses, on n'hésite pas à reproduire les rétrospectives un nombre incalculable de fois, là où, d'habitude, c'est le premier événement qui saute. Et enfin, aussi encore et toujours, la légitimité de tester. Si ça se trouve là, les solutions qu'on avait choisies, elles étaient peut-être pas forcément les bonnes tout de suite maintenant. Peut-être qu'on en aurait choisi d'autres qui auraient été plus performantes. Mais on a pu le tester très vite et s'en rendre compte très vite. L'avantage de ne pas livrer à plus 6 mois ou 1 an les choses qu'on produit. Donc tester, approuver ou désapprouver vite, mais voilà, tester les choses. Bravo coach agile, une troisième clé rendue à vos équipes. Une fois que on a itéré plusieurs fois, vient l'heure de la dernière daily avant la fin de l'itération. Si vous ne connaissez pas trop Scrum, qui est un mode itératif de gérer les fonctionnalités. Les délits, ce sont ces petits moments quotidiens où on se retrouve et où on se dit quels sont nos points de blocage, nos points de déblocage. Je le présente d'ailleurs souvent comme ça. Mes équipes ne se vexent absolument pas. Je n'en ai rien à faire en fait de ce qu'elles ont fait la veille et de ce qu'elles vont faire aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si elles sont bloquées ou débloquées. Un blocage, c'est je dépends d'une autre fonctionnalité qui n'est pas encore terminée. Je dépends d'une connaissance qui n'est pas dans l'équipe, qui est à l'extérieur et qui n'est pas disponible tout de suite. Ou, clairement, je ne sais pas faire. Ça fait 3 heures que je cherche chez Google et je ne sais pas. Un déblocage, c'est « j'ai la réponse à la question de ton blocage ». On se voit après la daily pour en parler. C'est « j'ai fini la fonctionnalité que j'étais en train de faire », ce qui te débloque, toi, ta fonctionnalité à continuer. Et c'est vraiment ça le rôle du Scrum Master, c'est de veiller à ce qu'il y ait de l'huile dans les rouages et que pendant cette daily, on se dise les vraies problématiques et les vraies solutions. Donc, dernière daily de l'itération. Lily, elle est super contente. À la fin de la journée, elle aura fini toutes les fonctionnalités sur lesquelles elle s'était engagée, même la plus petite. Bon, ok, elle n'était pas très importante, mais elle aura tout fait. Elle aura un indicateur de performance personnelle de 100%. Et ça, pour le PA qui va suivre, c'est assez sympa. À la même daily, Jack et Chris se plaignent d'avoir des petits soucis sur une grosse fonctionnalité, la dernière qu'il leur reste à faire, et qui est super importante parce que c'était celle qui était ultra engageante pour le client. Vous voyez la problématique ? On va mettre notre casquette de développeur, de développeuse. Il y en a dans la salle ? Yes. Qu'est-ce qu'on fait ? On se concentre sur nos propres tâches. On aura notre indicateur personnel de 100%. Ou on prête main forte à l'équipe, à la hauteur de ce qu'on peut faire. Qui choisit le 1 ? Ouais. Je l'ai entendu, ça. Moi, je ne peux pas que je mise ma tâche à moi. Et c'est complètement humain. Qui choisit le 2 ? Alors, dans la vie réelle, et d'ailleurs, ce sont des sujets RH hein, qui sont en cours, effectivement, on regarde vos indicateurs personnels. Et effectivement, ça va passer par ce genre de choses-là. Donc, c'est tout à fait humain. En plus, on nous a appris, enfin, en tout cas, moi, à mon âge, on m'a appris à travailler en mode siloté depuis X années. Donc, on n'est pas habitué à s'entraider avant de nous finir nos tâches à nous. Donc, c'est ce qu'on va choisir. Lily, elle va choisir de d'abord terminer son truc à elle et après, si elle a le temps, de venir prêter main forte. Donc, allons-y. Juste après la daily, on va faire une répétition de la revue de sprint, la sprint review. Et là, Lily, elle est super contente parce que ça y est, elle a réussi. Normalement, là, ça brille de partout, il y a des paillettes, elle est contente. Sauf que le reste de l'équipe n'est pas dans un bon mood du tout. Jack et Chris, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de la fonctionnalité engageante. On sait pertinemment que là, la répétition de la revue, on va se prendre un mur de la part du client qui ne va pas être content et il aura raison de ne pas être content. Qu'est-ce qui se passe là? Le mood de l'équipe globale, d'un côté, on va quasiment rien présenter. Et puis de l'autre, notre petit Lily, si, vous êtes gentil, mais je n'ai pas bossé pour rien quand même. On est complètement déphasé. Heureusement, on n'est pas ce type de développeur. Et on va faire s'entraider l'équipe. Je m'explique. Au moment du daily, au moment où on s'explique les choses, les problématiques, on va essayer, et ça, ce n'est pas un truc qui s'acquiert comme ça en une seule fois, ça met 4 à 6 itérations bien s'imprégner. On va faire comprendre que l'objectif ultime du produit, c'est un objectif commun. C'est l'objectif de l'équipe. Ce n'est pas une somme d'objectifs individuels. Lily, elle va accepter d'abandonner sa pauvre petite fonctionnalité qui était sympa, mais qui n'apportait pas grand-chose au client, pour se pencher sur la problématique de Jack et Chris. Problème. Elle n'a pas l'expertise du développement back. Donc, pour aider, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste apporter, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, elle va apporter son regard extérieur. Elle va permettre, en fait, de faire, pour le coup, des petits retours de bugs, des corrections que remontait Jack en tant que testeur et permettre à Chris de se focaliser sur le reste à développer. C'est rien. Enfin, ça paraît rien. Mais en fait, c'est ça qui a permis d'atteindre l'objectif après l'équipe. Alors, OK, on n'a pas tout démontré au client parce que justement, il manquait la fonctionnalité de lui. Mais pour lui, ce n'était pas grave, c'est parce qu'il attendait en priorité. En faisant ça, le principe classique de solidarité, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il y aura aussi un retour. Un jour où Lily sera un petit peu sur les rotules ou fatiguée ou dans le beau-boud, à l'inverse, Chris pourra venir l'aider éventuellement avec son regard extérieur, à hauteur de ce qu'elle pourra apporter avec sa propre expertise. On partage un objectif commun. Ça diffère un peu de d'habitude. Et enfin, l'esprit d'équipe, je ne vous apprends rien. Mais c'est un truc qui est très fort et qui se construit justement par ces petites actions. Donc bravo, en tant que développeur et développeuse, vous avez rendu une quatrième clé à votre équipage. Maintenant que c'est prêt, du coup, on a répété la revue. Alors pourquoi on répète d'ailleurs la revue? Est-ce que c'est nécessaire? Théoriquement, c'est pas dans ce problème. C'est un conseil que je vous donne. Oui? Alors la réponse, c'est ça marche jamais. Alors, j'espère quand même que si. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de ceux qui sont nés comme moi avant 2000, de l'effet Bonaldi. Il vaut mieux répéter et figer surtout. Figer ça sur une branche, sur un environnement particulier, j'en sais rien, mais voilà. Figer bien les choses pour que le lendemain ou le soir même, ça marche en démo. Donc oui, c'est bien de répéter. Et c'est bien de répéter aussi parce que du coup, bah, ça marche aussi comme une espèce de formation, une espèce d'alignement des planètes pour tout le monde. On est au même degré d'information. Donc c'est super important. Donc on a répété. Tout marche à merveille. Du coup, notre product owner va demander au client d'être disponible pour la démonstration. Vous mettez votre casquette de client. Vous choisissez quoi? Vous êtes sur plusieurs projets, vous aussi. Vous faites confiance à l'équipe. Vous validerez en une seule fois plus tard. Là, pour l'instant, il n'y a pas assez de trucs qui sont prêts pour vraiment prendre le temps de valider. Ce sera plus efficace. Ou, elle est facile celle-là encore. Vous allez consacrer fréquemment du temps à l'alignement désiré, décrit, compris et réalisé par l'équipe. Solution 1. Ouais. On sent le vécu là quand même. On pourra avoir le débat. Ou consacrer fréquemment du temps. On verra pourquoi ça peut être intéressant. Dans la vraie vie, quand en plus vous êtes la seule équipe agile et que vous êtes la seule à être vraiment accompagnée, que en fait les métiers ne sont pas accompagnés dans la transformation avec vous, c'est ce qui se passe. Vous fonctionnez en agilité par vous-même. Donc c'est à vous d'aller convaincre le client qu'il y a un intérêt à venir souvent. Bon ben là, le client il veut vraiment pas faire d'effort. On va cumuler non plus 3 fonctionnalités à démontrer, mais 18. Alors par contre, du coup, c'est plus une revue d'une heure, ça va être une revue de 2h30, 3h. Forcément, il y aura tout ça à démontrer. Alors on y va gaiement, ce sera la première fois qu'on va montrer quelque chose au client. Alors, vous n'avez peut-être pas prévenu que je dessinais pas très bien. Et on montre notre première version de site au client. Vous vous sentez comment en tant que client? On est d'accord. Elle est horrible la couleur. Ouais, je suis pas contente du tout. Déjà, le navigateur. Vous avez pas eu la note de la semaine dernière? C'est plus supporté, faut passer à autre chose. Ensuite, le menu. Bah, en fait, je voulais pas là. Je voulais un menu sur la droite. Ok, ça se fait depuis longtemps, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas un sous-menu avec en plus une petite pub pour Talix bien placée. Non, moi, ce que je voulais, c'était un truc joli. Et puis, effectivement, moi, les couleurs, ça me va pas du tout. Alors oui, c'est ce que j'avais demandé. Mais vous vous rendez bien compte que ça fait moche. Bref, on passe de 18 fonctionnalités prêtes à être mises en prod. Un petit bouton appuyé, si le client était OK. À une backlog de 28 évolutions, modifications, voire suppressions de certaines fonctionnalités qui ne sont du coup déjà plus utiles aux yeux du client. Comment on se sent là en tant qu'équipe? C'est chouette, hein? Non, en fait, c'est pas top. Cette impression de « on ne va pas y arriver, tout ça pour ça », et ce que j'ai entendu aussi, bah, en fait, c'est de la fausse agilité. Oui, quand vous êtes les seuls à essayer de mettre un petit peu de fréquence dans les livraisons, dans l'alignement, etc., oui, c'est de la fausse agilité. Mais heureusement, vous aviez fait le bon choix. On va rendre ces échanges, ces moments de feedback beaucoup plus fréquents et aussi plus constructifs que juste critiquer. D'ailleurs, à propos des critiques, je vous invite à revoir la conférence de Cérine qui a lieu juste avant, qui était géniale sur les feedbacks. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, en tant que client, on est aussi accompagné. Il est hors de question qu'une transformation ait lieu s'il y a juste les équipes de dev, sur qui en plus l'auto-organisation et l'autonomie vont bien les faire souffrir. Non, on est aussi embarqué dans la transformation. Donc du coup, on nous a expliqué pourquoi c'était intéressant de se voir régulièrement. Et d'ailleurs, pas que aux démos, c'est bien aussi de se voir entre-temps. Donc, première itération, on fait la remarque que le menu n'est pas forcément bien placé. Par contre, ouais, il est cool. Et pour l'instant, on aime bien la couleur. Du coup, on a été écouté dès la deuxième itération parce que c'était vraiment un changement prioritaire. Donc, l'équipe l'a pris en compte tout de suite. Ah, déjà là, le client, il se sent écouté. C'est très agréable pour un client de se sentir écouté. Par contre, vous avez vu la note là? Oui, on n'a pas vu... Enfin, on a vu que le navigateur est beaucoup supporté, par contre, on n'a pas eu le temps de changer pour la démo. Promis. D'ailleurs, on se pose deux questions dans ces cas-là. Est-ce que c'est urgent? Et dans ce cas-là, on le modifie avant de passer en prod. ou est-ce que c'est pas urgent? Et donc, du coup, on peut livrer tel que et on s'en fait une correction pour l'itération prochaine. Tout est possible. En l'occurrence, il fallait changer de manière prioritaire. Itération 3, etc., etc. On fait des feedbacks constructifs. Les feedbacks, c'est rarement sur la couleur, sur l'emplacement, etc. C'est vraiment sur le comportement de l'outil où c'est intéressant. Et qu'est-ce qui se passe là? Vous avez vu les sourires. Hein, on a mis une petite pièce cette fois-ci dans l'amélioration continue du produit. Tout à l'heure, on a vu de l'équipe. Là, c'est l'amélioration continue du produit. On comprend que si on se voit souvent, c'est pour le bien du produit. On partage une vision commune. Tiens, tiens, c'est différent ça. On ne travaille plus les uns à côté des autres. On travaille ensemble. Ce qu'on observe aussi, et j'ai eu la chance de le vivre une fois, c'est l'adhésion du client à l'équipe. On avait la chance d'avoir son contact en direct. Et ce qui s'est passé au bout de 18 mois de livraison en continu, il s'est rapproché de nous. Mais pas que, tiens, on s'entend bien. Vraiment physiquement, il s'était installé dans notre bureau de passage. Là, on était tous rassemblés la plupart du temps. Et puis comme ça, quand on avait une question, vous savez ce qu'on faisait? On levait la tête, on lui posait. C'est magique. Et enfin, grâce à ça, grâce à cette vision commune, grâce à cette adhésion à l'équipe, on a un engagement fort de l'équipe. Ils comprennent ce pourquoi on travaille, ce pourquoi ils sont utiles. On n'a plus l'impression de la fausse agilité. Ok? Donc bravo, client. Vous avez rendu une cinquième clé à votre équipe agile. Dernière petite scène. On a fait nos itérations, on a choisi notre outil de suivi des fonctionnalités. On a bien fait, on s'est amélioré. On a fait la démo et le client est plutôt content. Et il nous valide le passage en prod de 3 fonctionnalités. Yes, on est super content. En plus, on avait déjà préparé le package, tout ça. Donc, il n'y a plus qu'à aller en production. Le product owner le décide. Il n'y a rien qui va à l'encontre. On y va. Ah oui, mais qui c'est qui fait la livraison? On n'a pas d'ops dans l'équipe. C'est pas grave, il y a l'équipe transverse, l'équipe des exploitants. Donc, on se tourne vers vous. Et on vous pose la question suivante. Du coup, comment ou quand on livre notre package qui est prêt là, qui est tout chaud? Nous, en tant qu'exploitants, on choisit d'ajouter le package dans le prochain tir de livraison transverse. Et là, je vais être gentille. Je vais dire que c'est dans 15 jours. Et des fois, c'est dans 3 mois. Ou on va accompagner l'équipe dans ce petit truc intéressant qui s'appelle le déploiement continu des livraisons. Bon, là, c'est osé comme question. Je m'en rends compte. Hein. On a le droit de rêver. Qui a de la chance de pouvoir livrer en continu dans sa boîte? Et bien, c'est déjà plus que la plupart du temps quand j'ai posé la question. C'est vraiment le nom de la boîte. On va là choisir de, moi ce que je vis la plupart du temps, ajouter le package dans un prochain tir de livraison transverse, qu'on appelle les VSI, les versions, il y a plusieurs noms qui peuvent apparaître. Et du coup, on est content parce qu'on sait que dans 15 jours, notre package va être livré. C'est chouette. Concrètement, qu'est-ce qui se passe après ça, quand on veut se remettre dans le développement de notre prochaine itération? On repart des codes sources, de la version qu'on a poussée dans le package, ce qui est normal. On va pas vouloir faire de régression après. Donc, il faut repartir exactement du même code source. Et on y va gaiement. La première semaine se passe. La deuxième semaine se passe. Et le jeudi de la deuxième semaine, c'est jour de livraison en prod. On est ops, c'est pour nous. Et puis pour ceux qui ont déjà fait un peu de support, j'ai pas posé la question, il y a des ops dans la salle. Bon bah du coup, on peut pas livrer entre midi et deux, parce que ça risquerait, si ça pète, de fermer tous les accès à notre prod l'après-midi. On peut pas le faire non plus pendant les heures d'ouverture, donc on va commencer à livrer à 20h. Déjà, l'Ops, il est content de se connecter à 20h pour faire une livraison. Il prend le package de l'équipe, il commence par lui. Il en a 7 autres qui viennent d'autres équipes de développement. Il commence et paf, la livraison. Il regarde un petit peu les logs, tout ça, qu'est-ce qui se passe. Et puis, il se dit, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont encore fichu ? Je suis pas dev, moi. Les logs qui sortaient, c'était un petit peu fonctionnel. Dans ces cas-là, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu quand même, on se pose pas de questions. Nous, le but, en tant qu'op, c'est d'assurer que la prod tienne bien. Donc, le package, ça, ce qu'on en fait, on le met de côté. Et on passe aux 7 autres qui nous attendent. Et qui n'ont pas plus de chance. Mais, le lendemain, à 8h30, 9h, comme vous voulez, du coup, le package revient à l'équipe de dev, qui regarde, qui ne peut même pas poser des questions à l'ops parce que, il va pas se reconnecter en plus si tôt, parce qu'il a fini à 2h du matin. Il y a juste une petite note de livraison, comme quoi ça a échoué. Donc, on regarde les logs et là, on n'est pas ops, nous. Effectivement, l'erreur, c'était ni du full fonctionnel, ni du full technique, administrateur. Et là, je ne sais pas si vous connaissez ce truc. C'est typiquement ce qui existe dans Postgres, le fameux mur du conflit. C'est-à-dire qu'il y a une distance et physique, et réelle, et imperceptible, en fait, entre les équipes exploitantes et les équipes de développement, qui n'ont pourtant qu'un but commun, c'est que la prod soit toute jolie, normalement. Donc, on va éviter ça, et on va passer dans une démarche un peu plus décilotée. Je ne vais pas mettre le mot DevOps, mais gardez-le quand même en tête. Et on va proposer à l'Ops, temporairement, ou pas, de venir intégrer l'équipe de dev et la faire monter en compétences sur tout ce qui est déploiement en continu. Je vous rappelle, l'objectif ultime et des ops et des devs, c'est d'avoir une production magnifique. Donc, normalement, on devrait s'entendre. On va commencer, dans l'accompagnement, à parler avec des gros mots, des plateformes d'intégration continue, de la CI/CD, Continuous Integration et Continuous Deployment, donc intégration continue et déploiement continu. On va mettre le pied dans les tests d'intégration. Peut-être que si votre package, à chaque fois qu'on essaye de livrer en prod, c'est peut-être que ça n'a pas tout testé bien en amont, peut-être qu'on va aussi l'intégrer dans ce qu'on appelle la definition of done, ce qu'on considère comme « ok, c'est terminé, il n'y a plus qu'à livrer ». On va parler aussi du niveau de qualité du code, pour ceux qui connaissent les outils comme Sonar, etc. Bref, on va faire se rencontrer deux mondes, sans être dans le monde des bisounours, mais qui n'a qu'un but en commun, c'est que l'outil qui va être en prod soit utilisé et que les utilisateurs soient contents de l'utiliser. En faisant ça, on pousse un peu plus le bouchon de la multidisciplinarité qu'on attend et qu'on demande en agilité. Le principe d'entraide, encore une fois. Et aussi, la responsabilisation du maintien de la production côté développeur. Est-ce que vous connaissez les équipes de TMA, de MCO, tout ça? Des supports niveau X? Ça dépend des boîtes. C'est terrible. Parce que, pour l'avoir vécu des deux côtés, quand on est développeur, si ça pète en prod, c'est pas grave. On aura l'équipe support. Et puis, l'équipe support de l'autre côté, il y a encore un bug en prod. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces développeurs? Eh oui, mais c'est normal. Encore une fois, c'est un silotage qui est compliqué à résoudre tant qu'on laisse séparer les deux types d'équipes. Donc, rapprochons les différentes casquettes et ça se passera mieux. Donc, bravo. Vous avez rendu une sixième et dernière clé à votre équipe agile. Alors, la morale de l'histoire, vous allez voir, c'est pas que l'agilité appartient à un développeur. Restez jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il fallait prendre le temps d'accueillir, d'intégrer les membres d'une équipe. Qu'il fallait prendre le temps de tester les façons de faire, des outils, des process. Et vous avez le droit de vous tromper si vous ne reproduisez pas à chaque fois la même erreur et si vous apprenez de cette erreur. Il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir à comment mieux créer, réaliser, tester, améliorer l'environnement en fait de vie de votre équipe agile. Prendre le temps d'écouter l'équipe, ses appels à l'aide et ses besoins. Prendre le temps de donner du feedback sur ce qui est réalisé de manière constructive et bienveillante. Et prendre le temps d'optimiser sa chaîne de valeur depuis l'idée jusqu'à la mise en production. Parce que finalement, ce ne serait pas juste de prendre le temps. Là, je vous ai... Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'on a toutes et tous un rôle à jouer dans l'agilité de nos équipes, que ce soit dans sa mise en place ou dans le fait de la rendre pérenne. J'ai pris aujourd'hui des petits exemples qui ne sont pas forcément des rôles agiles d'ailleurs. Vous avez vu qu'on est tous plus ou moins éclaboussés par l'agilité quand on essaye de la mettre en place. Il y aurait pu en avoir d'autres. Je suis en train de réfléchir à d'autres scénettes pour les autres rôles qui sont aussi directement impactés. Donc, je vous invite d'ailleurs à m'en faire des feedbacks si vous en avez vécu. Moi, je suis Fanny, je suis accompagnatrice agile chez Absil. Je suis co-créatrice de TADX Tour Agile DevOps Experience, qui est un meet-up qui a lieu une fois par mois sur la région de Tours. J'ai été grandement aidée par Bitmoji parce que je dessine très mal. Et je suis Lily, donc force à elle. Merci à vous, merci pour votre écoute et prenez le temps. Et je pense qu'il y a du temps pour des petites remarques, des questions ou des rex là-dessus, sur ce que ça vous a inspiré. Est-ce que vous êtes reconnu ?
La présentation tout donc la fin, il y a quelque chose qui revient souvent, prendre le temps, en fait. Et la problématique, c'est souvent, effectivement, le temps, c'est devenu rare, on va dire. Quoi. Et après, bon, on voit, c'est un petit peu comme de décaler un peu peut-être certaines choses. Et là, il faut convaincre. Donc, et pour le coup, trouver les arguments pour convaincre que les gens sont responsables, ou sont responsables, sont des personnes, n'est pas quelque chose d'évident. Parce qu'il faut voir parler leur langage, on va dire, quoi, quelles sont leurs attentes, et puis pour le coup, effectivement, essayer de y répondre effectivement, le mieux possible, pour répondre à nos attentes à nous. Donc, voilà. Donc, de par votre expérience, effectivement, il y a des choses quand même à faire, des choses à éviter.
Juste pour résumer pour la prise de son, vaste sujet, la question du temps qu'on peut prendre, de la légitimité de demander du temps, le temps que ça coûte aussi, et le fait de persuader les managers ou dirigeants de prendre le temps. Il n'y a pas de recette miracle, et là sinon on vivrait plus, c'est ce genre de... Voilà. Là où c'est beaucoup plus facile, c'est quand effectivement la culture d'entreprise en fait est installée, et où on a déjà prouvé en testant, mais on a eu la légitimité de tester au moins une fois, qu'en perdant un petit peu de temps rapidement, ça nous en fait gagner beaucoup à la fin. C'est des choses qui sont impossibles, par exemple, quand il y a du micro-management installé et de bien imprégnant sur les équipes. Parce que effectivement, même si entre nous, on se met d'accord dans l'équipe de prendre du temps, on sait qu'on est un peu friqué derrière et que ça se voit tout de suite. Donc c'est vraiment cette légitimité-là qu'il faut travailler en interne. Si on a un petit peu de poids, un petit peu de force de persuasion, on peut le tenter. C'est quand même beaucoup plus facile quand c'est un avis neutre extérieur, même d'une équipe à côté. Hein. Regardez-nous dans notre équipe, un Rex. Ça, c'est formidable, Rex. Regardez-nous, on a mis ça en place. On ne fait pas encore les rétrospectives, toutes les itérations, mais on en fait assez régulièrement. Et regardez ce qu'on a réussi à mettre comme action en place parce qu'on a pris le temps d'en discuter, parce qu'on a pris le temps de tester. Ça n'a pas été bon tout de suite, mais après, ça a marché. Ça peut aussi être pas mal, quand l'esprit ou la culture est un peu mieux dans les équipes à côté. Est-ce que vous voyez autre chose comme élément de réponse ? Ouais.
Typiquement, si on en est sur du micromanagement, où c'est vraiment compliqué d'expliquer que tu peux gagner du temps en perdre, ce qui normalement n'est pas très compliqué, il y a plein de super dessins avec les roues carrées, change tes roues, ça ira plus vite, et non, voilà, ça normalement c'est parlant, mais pour le montrer, les cas les pires, mais qui arrivent souvent, c'est faut estimer. Si on est sur du micromanagement, on a quelqu'un qui vérifie des indicateurs, faut lui sortir des indicateurs qui montrent qu'il y a un problème et qu'on perd du temps, et lui dire en face du coup, on va en gagner. Je préfère ne pas avoir à le faire, mais
question d'estimation, c'est bien aussi de les formaliser, ces actions supplémentaires d'amélioration. De ne pas mettre dans le backlog que les fonctionnalités fonctionnelles, enfin métiers, mais mettre aussi les actions d'amélioration décidées, par exemple, dans la rétrospective, pour montrer que ça prend du temps de s'améliorer. Et par contre, ça va effectivement impacter tout le temps perdu sur les autres. Merci. C'est un avis là.
Oui, un des points aussi, c'est je pense que la question des indicateurs individuels, elle a vraiment aussi du sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des indicateurs individuels, fatalement, on casse une partie de l'esprit d'équipe. Clairement, ce sont des indicateurs qui sont mis sur la réalisation par l'équipe. Le suivi d'indicateurs individuels a vraiment sens. Et aussi par rapport à ce que vous avez dit au début sur l'intégration du collaborateur, ce qui m'a surpris, c'est qu'un collaborateur puisse arriver dans une équipe sans que l'équipe ait vu le collaborateur et puis discuter avec lui. Et puis, rien de ça, je trouve ça juste incroyable. Parce que, quand on accueille quelqu'un, on sait pourquoi déjà, on sait pourquoi il arrive, on sait ce qu'il est censé faire, on l'a vu, on lui a parlé, on dit, ok, j'ai envie de bosser avec lui. Et ça change tout dans l'arrivée. En fait. Et on lui dit, est-ce que tu as envie de bosser avec lui?
Ça va vraiment dans les deux sens. Et si, pour le coup, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, c'est pas que pour les petits nouveaux qui arrivent, c'est aussi pour les grands nouveaux, ceux qui ont l'habitude de changer, ceux qui ont l'habitude de se mettre dans le bain. Je ne me considère pas comme une débutante, ça fait 20 ans que je bosse. Le fait d'avoir été mal onboardée à un moment de ma vie, tard dans ma vie professionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est désagréable encore. C'est pas parce que j'ai roulé ma bosse, que je suis soi-disant autonome, que je sais comment faire, que je sais installer une stack toute seule, que j'ai pas ce besoin de me ressentir voilà, attendue et accueillie. Donc, faire partie d'un tout.
J'ai rencontré sans un problème de onboarding, tu es accueilli, etc. Et on te présente le projet, etc. Il peut y avoir d'autres problèmes dans ce onboarding. Partage de compétences sur d'autres sujets, des micro-sujets qui ne se voient pas forcément. On ne peut pas dire que l'équipe n'accueille pas, elle accueille bien, mais pas suffisamment ou pas comme telle ou telle personne.
Parce que je suis en plein dedans et après, il faut que je m'arrête. Non, d'accord, je croyais que vous me faisiez ça. Il y a un truc que je conseille parce que je suis vraiment en plein dedans avec une de mes missions actuellement, c'est profiter de quelqu'un qui arrive aussi pour challenger vos documentations ou vos méthodes d'intégration. Un petit rapport d'étonnement à la fin de son intégration, c'est génial. Pareil, hein, il faut qu'il soit constructif. Mais justement, pour que, et vraiment dans le sens de s'il y a encore un nouveau ou une nouvelle qui va arriver, toi, de quoi tu as souffert et qu'est-ce que tu aurais eu besoin de plus ou de mieux pour le faire. C'est vraiment précieux parce qu'en plus, on peut modifier du coup, les docs au fur et à mesure et c'est vraiment efficace. D'autres avis ?
Et j'avais une réaction sur, je ne sais plus qui a parlé d'objectifs individuels par rapport à comment tu casses l'équipe si tu restes trop au niveau individuel. Voilà, sur les indicateurs individuels et les indicateurs de l'équipe, ça m'a fait penser à un film que je trouve super intéressant sur le sujet, en métaphore, qui doit s'appeler Moneyball. C'est sur le baseball et le changement dans le baseball dans les années 90-2000, où pendant quelques années, du coup, des équipes qui ont changé d'organisation ont pu gagner des championnats parce qu'elles avaient compris un truc sur c'est pas les bons indicateurs pour savoir si un joueur est bon ou pas. On avait des indicateurs individuels. Il y a des gens qui sont arrivés avec des statistiques pour dire l'important, c'est pas est-ce qu'il court vite, c'est pas est-ce qu'il lance fort, l'important, c'est quand il est dans un match, est-ce que ça fait plus de points. Et donc, ces équipes-là, bah, maintenant, dans le football américain, c'est complètement transformé, il n'y a plus que ça qui en place. Mais pendant 2 à 3 ans, ça a permis à des équipes qui n'avaient pas d'argent de trouver des joueurs qui étaient sous-évalués et qui ne gagnaient pas l'argent qu'ils auraient qu'ils méritaient.
J'aime bien la comparaison. Donc, Moneyball, c'est ça ? Pour que je m'en rappelle. Avec Brad Pitt. Je vais le regarder.
Juste par rapport à Jira aussi, dont on parlait tout à l'heure, et la saisie des. Enfin, il y a un truc aussi qui est une vraie contrainte aussi pour les managers, c'est typiquement quand il y a du crédit d'impôt, c'est qu'on a besoin d'avoir un système de saisie de temps qui soit aux normes par rapport au fisc. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un Trello qui traîne à côté, un grélo, ou tout ce qu'on veut à côté, qui gère le truc. Donc, il y a aussi des contraintes, cette rencontre entre les deux mondes qui est importante, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur la rencontre des managers.
C'est vrai que j'essaye, je ne l'ai peut-être pas bien fait tout à l'heure, mais j'essaye de modifier un petit peu mon discours là-dessus. Le but, ce n'est pas de dire qu'il y a un outil qui est mieux que l'autre. Le but, c'est vraiment de dire qu'il faut avoir la main dessus. Tu as besoin d'un indicateur particulier. Effectivement, tu en as besoin pour toutes tes équipes. Bah, celui-là, tu vas l'imposer. Mais par contre, c'est vraiment l'ouverture de tout le reste. Et là, en l'occurrence, on souffrait d'un workflow vraiment minimaliste. Enfin, on pouvait être compliqué quand même parfois, mais nous, on ne s'y retrouvait pas. Et du coup, la qualité derrière en souffrait parce que justement, on ne passait pas par les bonnes étapes. C'était ça, en fait, qui nous freinait un petit peu. L'idée, ce n'était pas de mettre en cause Giraffe. Giraffe aurait été un excellent produit si on avait été administrateur. Il fait vraiment tout. Hein. Il fait même le café. Mais le but là, c'était vraiment de mettre le point sur on a besoin de quelque chose qui nous convient et qui répond à nos besoins et pas que aux besoins transverses de l'entreprise. Sinon, il va y avoir cette impression de perte de temps systématique dessus. Et oui, quand on est admin, alors, j'ai rarement vu un pirate, un développeur pirate, vouloir changer le workflow pour tout le monde. Voilà, au pire, c'est... Je pense qu'on peut mettre en place voilà, des petits process derrière de relecture ou de vérification. Il faut avoir un bac plus 7, oui, en général. Mais oui.
Je rapproche ça du contrôle de gestion, mais de dire, OK, typiquement, voilà, sur du crédit impôt recherche ou quelque chose comme ça. J'ai un cadre officiel. Pour moi, c'est un problème plus général sur la notion de management et que fait le manager. C'est-à-dire, quand un manager demande à ses équipes de saisir dans les cases dont lui, il a besoin, il leur demande de faire son travail. Moi, ce qu'on me demande comme reporting, que je peux accepter en tant que développeur, c'est qu'on me demande de dire ce que j'ai fait. Si ça ne rentre pas dans les cases, ce n'est pas mon problème. Et ce n'est pas dérangeant que quelqu'un d'autre le remette dans d'autres cases. Mais c'est pas à moi de m'adapter à des contraintes qui sont pas dans ma mission. Parce que ça va mentir sur quelque chose. C'est le reporting, il est censé te permettre d'observer quelque chose. Si tu transformes l'indicateur et que tu dis pas la vérité, on s'améliorera jamais. Mais c'est pour ça que c'est pas forcément le même outil. Mettre des choses dans les cases du CIR, c'est pas forcément saisir mon temps au quotidien.
Le besoin ne le remet pas en cause. Je pense qu'effectivement, il y a ce besoin de suivi d'indicateur. Là, je pense que l'idée, c'est plus de dire comment est suivi cet indicateur. Un exemple très concret. J'anime la cellule tech lead d'Abside Top. Et jusque-là, ils avaient une quinzaine de lignes multipliées par deux dans leur compte-rendu d'activité parce que il y avait les 15 cascades qu'ils avaient différentes, possiblement, qualification, réponse à l'offre, etc., multipliées par télétravail et présentiel. On est passé à deux lignes, télétravail et présentiel. Et c'est moi qui, toutes les semaines, leur demande, et en plus ça permet d'échanger, ça permet d'être au courant, qu'est-ce que tu as fait comme action technique cette semaine-là? Et effectivement, c'est un indicateur dont j'ai besoin et que je consolide de mon côté. Et qu'après, je reconsolide avec leur compte-rendu d'activité pour vérifier quand même si à la fin du mois, c'est pareil que ce qu'on a annoncé. Mais ça peut être un fonctionnement tout à fait entendable parce que c'est mon rôle d'animatrice. Ce n'est pas leur rôle à eux de faire du pilotage. Donc, je pense que c'est plus sur la question du rôle, de la responsabilité. Voilà.
On arrive vite aussi à la même notion sur le mur d'incompréhension. Si on est tous solidaires, on est aussi intégré qu'on a des contrats administratifs à remplir. Que du coup, ne pas aider en se disant mais moi je te donne ça. Oui, à toi de ressaisir derrière, c'est de la perte de temps pour tout le monde, c'est un merde tout le monde, parce qu'en fait, personne n'a envie d'avoir à gérer les temps passés. Et en plus, vraiment, il y a des contraintes qui font qu'on dit, bon, il faut l'historique de ce qu'on saisit les développeurs, parce que c'est ça qui fait tout. Donc, il y a quand même cette notion d'essayer de comprendre, et effectivement, il faut plus de solidarité. Pour se dire,
quand en amont, effectivement, et tout, donc, les choses soient pensées suffisamment pour que ça rentre dans le cadre de ce que font les développeurs. Comme je dis, parfois, effectivement, et tout, on a du mal, des fois, à dire dans quelle case on va mettre les choses. Voilà. C'est plus là-dessus. Et des fois, par défaut, parce que manque de temps, on dit, c'est bon, on lance le cadre là, et puis on va ça là. Et bon, ils débrouilleront avec ça. Point. Ça, c'est personnellement, c'est du vécu dans mon entreprise. Tant plus que moi, personnellement, je fais du dev, je fais du support et je fais également donc, du projet. Donc, voilà.
Donc oui, l'entraide, c'est aussi sur ce niveau-là. Et le but, ce n'est pas de dire débrouillez-vous avec. C'est au contraire, voilà, il y a cette contrainte. Et comment, et on est libre d'ailleurs, on est tout le monde, on n'a pas les auto-organisés, comment on s'organise pour que tous ensemble, on arrive à produire cet indicateur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, ben, j'espère que la journée a été bonne jusqu'au bout. Merci.